Merci pour toutes ces nouvelles. On se retrouve pour vivre 7 jours d'événements sur la planète avec la rédaction. Alaa Khonmani est notre invitée cette semaine, journaliste d'origine syrienne. Elle vient d'écrire « La Syrie promise », un livre publié chez Sinbad, Actes Sud.
Une semaine d'actualité.
Dans quelques minutes, nous allons bien entendu prendre la direction de l'Afrique. Mais d'abord, parlons un instant de l'actualité française avec notre rubrique « La polémique de la semaine ». Et cette question, est-ce que le gouvernement savait ou non que l'ancien président Sarkozy était sur écoute dans le cadre d'enquête ? Non, a d'abord dit le ministre de la Justice, Christiane Taubira. Non, selon Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui a dit exactement le contraire mardi à la télévision.
Il s'agit d'une instruction judiciaire qui a été lancée en avril 2013 et qui concerne le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy et des soupçons de financement par la Libye. Cette enquête est menée par deux juges d'instruction qui travaillent en toute indépendance, qui peuvent décider à tout moment de mettre sur écoute des perquisitions, de faire des procédures, d'auditionner des gens. C'est leur affaire, ils le font en toute indépendance et ils n'ont pas de compte à rendre. Et la garde des Sceaux, pas plus que moi-même, ne sommes au courant notamment de ces écoutes téléphoniques, pas plus hier qu'aujourd'hui. Mais au cours de leur enquête, et donc avec ces écoutes téléphoniques, ils ont découvert qu'il y avait des faits nouveaux, qui indiquaient qu'il y avait des présomptions de trafic d'influence. Et comme c'est la loi, et comme c'est la procédure, la garde des Sceaux a reçu effectivement une information, et que j'ai eu moi-même ensuite, qu'il y avait une nouvelle information judiciaire qui avait été ouverte sur des faits extrêmement graves. Mais on n'a pas encore une fois appris quel était le contenu des écoutes. C'est très important de rappeler ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les Français soient convaincus que le pouvoir exécutif n'intervient pas dans les affaires de justice.
Nous allons revenir sur le mensonge ou la maladresse de Christiane Taubira. Mais ce qu'il faut tout de suite souligner, c'est la fragilisation du gouvernement qui, selon la rumeur, n'a plus que quelques semaines d'existence. Pierre Firsion, jeudi.
La garde des Sceaux, Christiane Taubira, prise en flagrant délit de mensonge. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui sans convaincre grand monde, explique ce matin avoir pris connaissance de ses écoutes.
À l'occasion des révélations du Monde.
Vous l'avez appris par la presse comme nous.
Absolument.
Décidément, avec cette affaire, la majorité s'est pris les pieds dans le tapis. Jean-Marc Ayrault reconnaissait hier que la ministre de la Justice et lui-même étaient au courant de ses écoutes depuis le 26 février dernier. Ce matin, le député socialiste Jean-Jacques Urvoas, proche de Manuel Valls, a quelque peu lâché la garde des Sceaux en expliquant que le Premier ministre avait apporté, je cite, « la précision que Christiane Taubira n'a pas donnée lundi sur TF1 ». Quelques heures plus tard, le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Thierry Mondon, en voulant faire de l'humour, s'en mêle les pinceaux.
Nous n'avions pas besoin de mettre Nicolas Sarkozy sur écoute puisque M. Buisson s'en était occupé en avance, bien avant nous et de manière beaucoup plus complète que ce qui est possible de faire.
M. Buisson s'en était occupé bien avant nous, une maladresse de plus qui démontre qu'en matière de communication, la majorité a de nets progrès à faire.
Mercredi, Christiane Taubira a organisé une conférence de presse solennelle pour tenter de justifier son mensonge ou sa maladresse, donc Valérie Gasse.
Christiane Taubira n'avait pas vraiment le choix, cible des attaques de l'UMP, elle devait s'exprimer. La garde des Sceaux a décidé de le faire à l'issue du Conseil des ministres, mais pas dans la cour de l'Élysée, lors du point de presse de la porte-parole du gouvernement. Un procédé inhabituel et il y avait de l'émotion dans sa voix, même si elle a tout de suite mis les choses au point.
Non, je n'ai pas menti. Non, je ne démissionne pas.
Puis elle poursuit.
Je redis ici que je n'ai pas et je n'ai toujours pas d'informations concernant la date, la durée, le contenu des interceptions judiciaires.
Contrairement à ce qu'elle avait dit sur TF1 lundi, Christiane Taubira reconnaît avoir été mise au courant par une note du 26 février de l'ouverture d'une information judiciaire. Elle dit en avoir informé Jean-Marc Ayrault, mais pas François Hollande, en tout cas pas tout de suite.
J'informe le président de la République à partir du moment où je suis informée qu'il y a des perquisitions en cours. C'est tout.
La garde des Sceaux assume, protège le chef de l'État et riposte en renvoyant l'UMP à ses mauvaises pratiques de l'ère Sarkozy.
Oui, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser sur la façon dont fonctionnaient les relations entre le pouvoir politique et l'institution judiciaire avant le 6 mai 2012.
Question, la tentative pour renvoyer le boomerang à droite va-t-elle réussir ?
Lors de cette conférence de presse, donc, Christiane Taubira a brandi des documents, des lettres que la presse s'est empressée de photographier et de décrypter. De quels documents s'agissait-il, Véronique Moreau ?
La lettre envoyée par le tout nouveau procureur financier, Éliane Houlette, au procureur général de Paris, porte clairement la date du 26 février. Elle mentionne tout d'abord des interceptions effectuées du 28 janvier au 11 février 2014 sur des conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, son avocat, sur une ligne souscrite sous un faux nom. Puis le courrier articule et détaille les différents éléments qui ont amené les enquêteurs à suspecter une éventuelle violation du secret de l'instruction et un possible trafic d'influence entre ces deux hommes et un magistrat bien introduit auprès de la Cour de cassation. Dans le deuxième document, adressé cette fois directement par l'avocat général près la Cour d'appel de Paris, à la garde des Sceaux, Philippe Lagauche rappelle au détour d'une phrase à Christiane Taubira qu'elle est régulièrement informée de l'évolution du dossier dit des financements libyens de la campagne présidentielle de 2007. Il va même jusqu'à donner la cote de référencement des notes en question. De fait, la garde des Sceaux a exigé depuis janvier d'obtenir des remontées régulières sur les dossiers sensibles, ce qui prouve qu'au moins elle n'a pas tout découvert en lisant les journaux.
Et je n'oublie pas le verdict du procès de Pascal Simbi Kangwa, on vous en parle dans nos journaux.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu. @rfi.fr.
Merci pour vos messages, continuez à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à toute l'équipe de 7 jours dans le monde, écrit Mohamed à Toronto. Pourquoi tant de fascination autour de l'affaire Sarkozy-Buisson? Où en est-on concrètement avec l'affaire d'écoute téléphonique du Premier ministre turc, se demande Mohamed à Toronto. Eh bien l'enquête continue. Bonjour à Guide Modeste, N'Djamena. Bonjour à travers une semaine d'actualité. J'aimerais saluer toute la famille à Guide et N'Djamena, sans oublier mes amis du Letcom de Moundou. Bonjour Pierre-Edouard et bonjour à tous les auditeurs. J'aime une semaine d'actu, écrit Oumar, étudiant à l'Institut supérieur polytechnique de francophonie à N'Djamena. Il dit bonjour à son père, Mahamat Oumar Maloun, député à l'Assemblée nationale du Tchad. Je vous remercie. Et enfin, un salut à Komla Avor, à Lomé, à qui je souhaite, avec quelques jours de retard, un joyeux anniversaire.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie d'Ala Konmani qui vient d'écrire La Syrie promise aux éditions Sinbad Actes Sud, un beau livre sur la Syrie, un dialogue entre son père disparu aujourd'hui et elle par le biais de courriels. Livre sur la Syrie évidemment, mais livre aussi sur la France. Vous écrivez par exemple, Ala, les débats politiques en France se réduisent à des scandales financiers et les polémiques intellectuelles dégénèrent en règlements de compte entre éditorialistes dans les débats télévisés. On y est là.
Quand on est un Français d'adoption, comme c'est mon cas, comme ça a été un peu le cas de mon père, on est attaché au pays d'adoption, mais on garde un regard un petit peu distant. Avec une certaine distance. Et, bon, vous venez de parler de toutes les polémiques qui ont cours actuellement. Moi, j'ai écrit ça, c'était en 2010, c'est-à-dire avant même les révolutions arabes, puisque c'était pas le propos de mon livre au départ.
Vous vouliez écrire un livre sur la France, hein, c'est ce que vous me disiez.
Oui, c'était mon propos, c'était justement de voir comment, au bout de tant d'années en France, on était à la fois français, mais qu'on gardait aussi un regard un petit peu différent. Et quand je dis ces polémiques, c'est vrai que c'est surtout la proportion que prennent les petites polémiques qui n'intéressent pas vraiment la majorité des Français, je pense, et qui sont regardées par l'extérieur avec un peu plus d'incompréhension. Ça me fait penser d'ailleurs que souvent, maintenant, c'est vrai que la situation syrienne est très compliquée, on me dit « Ah, oh, mais c'est la Syrie, c'est trop compliqué ». Imaginez n'importe qui en train de suivre... Imaginez n'importe qui c'est en train de suivre les débats sur le gouvernement, les écoutes, Taubira, Sarkozy, etc. Ils trouveraient ça compliqué avec peut-être moins d'enjeux.
Alors on va parler de la Syrie dans d'un autre monde hein, par rapport à la France, et tant mieux pour les Français, dirais-je, à la Konmani. Il y a, on l'a vu hier avec des reportages de David Thompson, qui vient d'écrire d'ailleurs un livre sur la question, lors d'une journée spéciale consacrée à la Syrie sur RFI, on a reparlé de ces brigades de djihadistes, ces jeunes Français qui partent en Syrie. Ils seraient plus de 100 aujourd'hui. Que vous inspire ce combat de ces jeunes Français?
Plus de 100, oui. Beaucoup plus si on compte ceux qui sont rentrés et sortis. Écoutez, moi j'étais la semaine dernière en Syrie, j'étais dans les... dans la partie de territoire qui est relibérée, c'est-à-dire où ces extrémistes liés à Al-Qaïda ont été chassés par les brigades rebelles syriennes. Et les habitants m'ont beaucoup parlé de tous ces gens qui venaient de partout. C'était aussi bien des pays musulmans lointains, ça allait Tchétchénie, Indonésie, mais aussi beaucoup d'Européens, y compris des convertis, c'est-à-dire pas ceux dont les parents sont musulmans. D'abord, il y a un côté, tous les perdus de la terre sont en train d'aller se retrouver une cause en Syrie. Ça, c'est un phénomène qu'on a vu depuis Katmandou, depuis les années 68. Il y a cet aspect-là. Bon, il est certain que là, c'est beaucoup plus préoccupant parce que c'est une guerre, parce que c'est violent, parce que c'est un embrigadement idéologique. Mais il faut savoir que sur le terrain, ils servent à rien. Ils servent à rien, surtout aux Syriens, qu'ils sont complètement rejetés.
D'ailleurs, ils
pensent se battre.
Ils disent eux-mêmes qu'ils se regroupent par langue, parce qu'ils sont totalement en dehors
mais oui,
des...
Mais oui, ils se retrouvent, ils n'ont aucune compétence militaire, ils parlent la plupart du temps pas la langue, ils ne peuvent pas communiquer avec les habitants, ni même avec les autres recrues des autres pays. Il y en a qui se retrouvent en train d'éplucher des patates dans des cuisines, hein, les fameux djihadistes aventuriers. Quelle aventure ! En plus, même dans leur perspective, et surtout, ils sont indésirables. Ils s'embarquent dans un combat, ils se font manipuler, et ils sont complètement rejetés par ceux qu'ils prétendent venir aider.
Manipulés par les islamistes.
Par ces mouvements extrémistes qui sont, pour toutes les manipulations, qui sont manipulés de toutes parts.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons revenir en Syrie dans un instant, à la Conmani, et nous allons pour l'instant partir en Afrique. Pour la première fois, l'Afrique du Sud s'est exprimée officiellement depuis le début de la crise diplomatique avec le Rwanda. Le ministre de la Justice sud-africain a donné une conférence de presse mercredi, affirmant détenir des preuves contre les diplomates expulsés, 3 Rwandais et un Burundais. Selon Pretoria, ils sont impliqués dans des tentatives d'assassinat et même un assassinat d'opposants rwandais exilés en Afrique du Sud. Référence très claire aux attaques contre l'ancien chef d'état-major rwandais Kayumba Nyamwaza et l'assassinat de l'ancien chef des renseignements extérieurs Patrick Karegeya. L'Afrique du Sud a eu tort d'expulser des diplomates rwandais respectueux de la loi, répond-on du côté de Kigali, qui accuse toujours ces dissidents rwandais d'être des terroristes. Alors sur ces tensions diplomatiques, la correspondance jeudi d'Alexandra Banjon.
L'ambassade rwandaise à Pretoria est fermée. Sur la porte, un communiqué, toute délivrance de visa suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a plus personne, les 3 diplomates ont été expulsés et l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, qui se trouvait à Kigali la semaine dernière, n'est pas revenu dans le pays. Côté sud-africain, la seule réaction officielle a été celle du ministre de la Justice, Jeff Radebe, qui a indiqué que la décision d'expulsion était basée sur des activités illégales sur le territoire sud-africain, des tentatives de meurtre ainsi qu'un assassinat. C'est la première fois que Pretoria fait publiquement le lien entre les diplomates rwandais en poste en Afrique du Sud et les différentes attaques contre des ressortissants rwandais dans le pays. De son côté, la police criminelle, l'EOX, a confirmé que les suspects de l'attaque sur la résidence du général Kayumba la semaine dernière sont protégés par leur immunité diplomatique, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de les expulser. Le porte-parole de la police a toutefois ajouté que leur enquête n'était pas suffisamment avancée pour lier cette attaque aux différentes tentatives d'assassinat à Johannesburg et notamment au meurtre en début d'année de l'ancien chef des renseignements rwandais, Patrick Karegeya.
Les Nations Unies ont appelé mardi les rebelles Hutus rwandais présents dans l'est de la République démocratique du Congo à se rendre sans délai, dit l'ONU, sous peine d'être désarmés de force, une menace qui fait suite bien sûr à une opération conjointe armée congolaise MONUSCO qui a eu lieu dimanche dernier dans le parc des Virunga. Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, à la Conmani, vous êtes très attentive. En Libye, les députés ont retiré leur confiance cette semaine au Premier ministre Ali Zaïdan. C'était mardi précisément, Nicolas Champeau.
Les autorités ont assisté impuissantes à la dégradation sécuritaire dans l'est de la Libye, livrée à des éléments radicaux islamistes. Ils incendient des commissariats, tuent des magistrats, des étrangers et font exploser des voitures piégées en toute impunité. Par ailleurs, le gouvernement n'a rien pu faire face aux milices fédéralistes qui, depuis juillet, bloquent les terminaux pétroliers. Cette semaine, celles-ci ont poussé la provocation jusqu'à exporter du pétrole volé au nez et à la barbe des autorités. Quant au sud libyen, il est livré à lui-même, ou plutôt aux tribus qui s'affrontent pour le contrôle de trafic facilité par des frontières non surveillées, pour le bonheur d'ailleurs de djihadistes de mieux en mieux implantés. Sur le plan politique, la constitution n'est toujours pas rédigée, le dialogue national se fait attendre, malgré le manque criant d'un projet fédérateur dans une Libye où chefs religieux, locaux, tribaux et révolutionnaires revendiquent chacun une forme de légitimité. Tous ces facteurs ont finalement conduit les députés à retirer leur confiance au Premier ministre Ali Zeidane, dont l'inaction avait froissé la communauté internationale. Des diplomates occidentaux avaient en effet critiqué la semaine dernière une équipe de transition imprévisible et sans feuille de route.
Suite d'une semaine d'actualité, nous allons repartir en Syrie via le Liban pour évoquer l'élection présidentielle, car il doit y avoir une élection en plein conflit. C'est assez surréaliste, comme on dit aujourd'hui, à la Khonmani. Correspondance de Beyrouth signée Paul Khalife.
À 3 mois de l'élection présidentielle prévue en juin, le régime syrien commence ses manœuvres dans le but de faire réélire Bachar al-Assad à la tête de l'État. Pour cela, il envisage une batterie de mesures afin de verrouiller le scrutin et de barrer la route à tout candidat de l'opposition. L'agence officielle Sana rapporte qu'un projet de loi actuellement en discussion au Parlement inclut des clauses détaillées pour l'élection du président de la République. Le quotidien Al-Watan donne, lui, plus de détails. Selon ce journal proche du pouvoir, tout candidat à la présidentielle devra avoir résidé en Syrie depuis au moins 10 ans et obtenir le soutien d'au moins 35 députés sur les 250 que compte le Parlement. Ces articles rendent pratiquement impossible la candidature d'un opposant de l'extérieur et très difficile celle d'un opposant de l'intérieur. Le projet de loi en gestation prévoit que tout candidat à la première magistrature ne peut pas détenir une nationalité étrangère, ce qui met d'emblée hors jeu de nombreux opposants qui sont des binationaux. La nouvelle constitution limite la présidence à 2 septennats, mais elle précise que cette disposition n'entrera en vigueur qu'à partir de la prochaine élection présidentielle, ce qui permet en théorie à Bachar al-Assad de rester au pouvoir 14 ans supplémentaires.
Bachar al-Assad qui avait été élu en 2000 à la Khonmani avec 97,29% des voix.
Et il faut rappeler qu'on a dû changer la constitution à la mort de son père parce qu'il n'avait pas les 36 ans réglementaire exigé pour être président de la République, et que le Parlement s'est réuni, ça a duré 10 minutes, a abaissé l'âge légal pour l'accession. Tout ça pour dire que aujourd'hui encore, les lois votées, les dispositions prises, une nouvelle élection n'a vraiment aucun sens.
Quel sens peut avoir une élection présidentielle?
C'est pour maquiller la dictature.
Oui, en plus.
Quelle légitimité, si même avant il n'y avait pas de légitimité, dès lors que c'était une élection à candidat unique avec ou vote obligatoire pour les fonctionnaires et les autres ne votaient pas. Alors dans les circonstances actuelles, comment une élection pourrait donner plus de légitimité? Je crois que Bachar al-Assad vit dans un déni criminel depuis le début de cette crise.
Et il s'était fabriqué à la Khonmani, je ne sais pas si c'est des communicants, comme on dit aussi aujourd'hui, une image, vous vous souvenez, enfin vous vous en souvenez évidemment, au début on disait « Ah, le jeune dirigeant, charmante épouse, ils sont modernes, ça y est, c'est ça la nouvelle Syrie ».
Ça a été un travail de professionnel de la communication, avec des agences...
Invité à Paris d'ailleurs,
En Grande-Bretagne, avec plein de magazines People... qui ont contribué à cette image de jeune président éduqué qui a fait ses études en Angleterre, qui a épousé une charmante princesse jolie,
un conte de fées.
Jolie et élégante. Bon, le genre d'histoire qui plaise aux magazines, mais qui ne correspond pas à une réalité. Le problème, c'est que ça a très bien pris dans une grande partie de l'opinion. Et moi, je sais que devant les massacres qu'il y avait, j'ai encore des gens qui disent « Oh, mais ce jeune garçon, c'est pas possible. Il est manipulé. Il peut pas être capable de ça. »
Oui, on parle du clan familial.
Oui, c'est ça, c'est le clan familial. C'est une victime. Lui, il est trop gentil pour faire ça.
La force de la communication. Vous écrivez, d'ailleurs, avant de continuer à parler de la Syrie, on entendait cet élément de Nicolas Champeau sur la Libye. La Libye est très présente aussi dans cet échange donc de courriels entre votre père et vous.
Oui,
parce que vous parlez évidemment des printemps arabes et de cette étape.
Bah oui, parce que c'est étonnant, parce que les pays du printemps arabe, ça a commencé, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, etc., ont toutes été des étapes dans la vie professionnelle de mon père et dans notre vie familiale, dans mon enfance. Et la Libye, où vraiment j'ai très peu de souvenirs parce que j'étais très petite, pareil, c'est normal qu'ils vivent les crises qu'ils sont en train de vivre. C'est tellement difficile de sortir de 40, 50 ans d'une dictature qui annule complètement toute vie politique, toute citoyenneté, toute idée des habitants de pouvoir travailler sur la chose publique. Et là, la reprise en main est très difficile. C'est évident que après ces révolutions, des crises vont se multiplier avant qu'une autre stabilité, un autre ordre ne soit trouvé.
Alaa Kodmani, que se passe-t-il aujourd'hui précisément en Syrie? On sait que les journalistes ne sont pas les bienvenus, on sait qu'il y a des journalistes pris en otage, on sait qu'il y a des journalistes morts, qu'il y a eu une journaliste blessée, notre amie Edith Bouvier. Il est très difficile de savoir ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. On dit que le régime a regagné du terrain et qu'il est en train de gagner en quelque sorte cette guerre. C'est caricaturé que de dire ça?
C'est une partie de communication là aussi. Le régime... Bon, j'étais en Syrie la semaine dernière.
Donc vous êtes bien placé pour faire le point.
Et Edith Bouvier l'était aussi par la suite, après moi. J'espère qu'elle pourra l'écrire. Aujourd'hui, bon, comme je dis, il y a une partie du territoire qui est beaucoup plus sûre, du moins pour les journalistes. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de là où nos autres confrères sont encore détenus. Est-ce que le régime reprend le dessus? Il a toujours eu le dessus. Sur le plan militaire, il est clair que quand on a une aviation, qu'on a une armée colossale, équipée depuis des décennies pour combattre, pour mener une vraie guerre, et que celle-ci est menée contre la population, le régime a toujours été gagnant. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tant que les rebelles n'ont même pas de quoi faire abattre un avion, j'ai vu la semaine dernière le dernier raid à 20 km de la frontière turque, un village, ça se passe en 30 secondes, même pas, un projectile tombe d'un avion, tue 15 personnes, détruit 5 immeubles, avec autant de dizaines de blessés. Donc bon, là la suprématie est totale, le régime ne peut que gagner militairement, tant que il y a un tel déséquilibre des forces, d'où ceux qui appellent à ce que l'opposition ait au moins des armes défensives qui peuvent arrêter cette agression. Maintenant, est-ce que le régime gagne politiquement? Oui, il gagne à cause de ce qu'on disait tout à l'heure, de la renonciation du monde entier à punir les crimes qui sont en train d'être commis, notamment les armes chimiques. Et ça, je crois que
Ils sont en train, petit à petit, d'être sortis du territoire, semble-t-il, dans le cadre d'un accord qui a été signé.
Oui, mais après l'utilisation prouvée par le régime de Bachar el-Assad des armes chimiques contre la population dans la banlieue de Damas, avec des centaines de jeunes enfants morts. Et là, exactement comme les Syriens vous présentent les choses, on dit au tueur, Guy, t'as mal fait, passe ton pistolet et va-t'en. Et c'est exactement ça. Et là, c'était le loto de Bachar el-Assad. Parce que la fameuse ligne rouge dont vous parliez au début de l'émission
d'Obama.
D'Obama, qui a cru que bon, il va aller mettre cette ligne rouge qui jamais ne serait atteinte.
Imprudent ce jour-là.
Voilà. Et tout d'un coup, elle est franchie et il n'y a pas de sanction. La sanction, c'est pas de retirer les armes chimiques, c'est de retirer la possibilité.
Les armes chimiques déclarées, hein, d'ailleurs.
Oui. De retirer la possibilité de tuer sa population.
Alors vous avez vu les déclarations de Lakhdar Brahimi, le négociateur de l'ONU, qui a accusé Damas de tout faire pour repousser les négociations. Si négociations il y a d'ailleurs.
Oui, on l'a vu déjà aux tentatives de dialogue de Genève. Le régime syrien est prêt. Comme il a l'impression qu'il a gagné, il a un peu gagné. Il a parfaitement l'impression de gagner. Il veut une victoire totale et n'est pas prêt à céder le moindre pousse de pouvoir à l'opposition, à tout autre. Donc, on voit pas comment il peut engager un dialogue, sinon poussé par les Russes qui lui disent « Allez, il faut faire semblant, allez donc à Genève et faites semblant de discuter. »
Et en attendant, la population souffre dans une partie du territoire. J'ai vu récemment, il y a quelques jours, des images de Damas, où là, la guerre semblait très loin d'ailleurs.
Je ne crois pas que c'est l'impression des Damascènes. Oui. Avec lesquels je suis en contact.
Vous parlez de Damas d'ailleurs dans ce livre en disant que c'est un cas particulier.
Mais Damas c'est ma ville natale. Il me reste beaucoup de famille là-bas encore. Et bon, je peux pas y aller pour le moment. Mais Damas est quadrillé par les services de sécurité. À Damas, on peut plus rouler en voiture parce que les barrages dans chaque rue, on est arrêté. Le moindre trajet peut prendre 2 heures alors qu'il prend un quart d'heure normalement. L'emprise, le verrouillage sécuritaire est un vrai cauchemar. Il est vrai que bon, les gens ne sont pas atteints dans leur sécurité quotidienne comme c'est le cas des populations sous zone rebelle qui sont bombardées par l'aviation et par l'artillerie. Mais Damas est complètement étouffé.
C'est une chape de plomb.
Chape de plomb et crainte terrible de ce qui pourrait arriver si jamais le régime se retournait aussi contre Damas. Le jour où il sera menacé et qu'il se retourne contre Damas pour en faire la même chose qu'il a fait à Alep, à Homs ou ailleurs, c'est la grande terreur des Damascènes.
Merci Alaa Konmani. Votre ouvrage s'intitule La Syrie promise. Je le recommande. C'est un livre très, à la fois passionnant et très attachant dans sa démarche, ce dialogue imaginaire avec votre père aujourd'hui disparu. Cet ouvrage est publié aux éditions Sinbad, Actes Sud. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous serons en compagnie du sociologue Michel Maffesoli, qui a écrit avec Hélène Stroh, l'inspectrice honoraire des affaires sociales, un livre iconoclaste pour le moins qui s'intitule « Les nouveaux biens pensants ». Nous parlerons donc du politiquement correct demain dimanche 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.